RFI, il est 18h au Gonaïves et à New York, 23h en temps universel et minuit ici à Paris. Et c'est à vous, Paul Lancin Spinelli, pour le journal. Bonsoir.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Une salve d'échange de prisonniers chahutée ce jeudi entre Israël et le Hamas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dénoncé les conditions de libération de 3 otages par le groupe islamiste. 110 détenus palestiniens ont finalement été relâchés après plusieurs heures de délai. Pour sa première prise de parole officielle en tant que président par intérim de la Syrie, Ahmad al-Shara a annoncé le lancement d'une conférence de dialogue national pour prendre en compte les différents points de vue afin de créer un futur programme politique. Après la prise de Goma par le M23 soutenu par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, les réactions continuent d'affluer à l'international. La Belgique demande ce jeudi des sanctions contre Kigali à l'Union européenne. Le Royaume-Uni menace lui de réviser son aide au Rwanda. Et puis aux États-Unis, il n'y a aucun survivant. 67 morts après la collision entre un hélicoptère militaire et un avion de ligne mercredi au-dessus de Washington. Le point sur ce que l'on sait dans ce journal. Flottement et confusion lors du nouvel échange de prisonniers entre Israël et le Hamas. Ce jeudi soir, le Comité international de la Croix-Rouge a demandé une amélioration de la sécurité et du respect de la dignité des otages libérés par le groupe islamiste. Cette réaction, elle fait suite à la dénonciation par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de scènes qualifiées de choquantes lors de la libération de 3 Israéliens à Gaza au milieu d'une foule très compacte et d'hommes cagoulés et armés. En parallèle, 5 Thaïlandais avaient été relâchés par le groupe islamiste. Parmi les Israéliens délivrés, il y a notamment une soldate. Elle s'appelle Agam Berger. Sami Boukhelifa a pu s'entretenir avec son père.
Il a fait du retour de sa fille le combat d'une vie. Le 7 octobre 2023, Shlomi Berger découvre sur les réseaux sociaux la vidéo d'Agam, sa fille soldate, capturée dans sa base militaire de Nahal Oz, à moins d'un kilomètre de la bande de Gaza. Sa mission à l'armée, guetteuse, chargée de surveiller la frontière entre Israël et l'enclave palestinienne. Le jour de l'attaque du Hamas, elle est emmenée à Gaza avec notamment 4 autres soldates. Elles ont été libérées la semaine dernière et c'est désormais elle qui rentre à la maison, se réjouit son père Shlomi Berger. Bien sûr que je suis heureux, je ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Agam a passé 482 jours aux mains du Hamas à Gaza, plus de 15 mois de captivité. Shlomi Berger se confiait déjà auprès de RFI en octobre dernier. Agam a fêté son 20e anniversaire à Gaza. Si je devais m'arrêter et réfléchir à tout ce qu'elle a traversé au jour le jour, je m'effondrerais. En tout, ce jeudi, 3 Israéliens et 5 Thaïlandais ont été libérés. Samedi, 3 autres Israéliens seront relâchés par le Hamas. Sami Bourfia, Jérusalem. RFI.
Et en échange de ces libérations d'otages par le Hamas, ce jeudi, Israël a fini par libérer de son côté 110 détenus palestiniens après avoir suspendu plusieurs heures ce processus. Au Proche-Orient toujours, il ne s'était toujours pas adressé à la nation syrienne depuis la chute du régime Assad début décembre. Ahmad al-Shara, fraîchement désigné président par intérim mercredi, a annoncé ce jeudi, lors d'un discours, la tenue d'une conférence de dialogue national. Il s'agit en fait d'une plateforme pour que les différents points de vue s'expriment afin d'établir un futur programme politique. En remplacement du Parlement, dissous également mercredi, un conseil législatif restreint a également été établi ce jeudi. Ahmad al-Shara qui a assuré qu'il voulait maintenir la paix civile dans un pays affaibli par 13 ans de guerre. Après sa prise de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo par le mouvement M23 soutenu par le Rwanda, l'ONU dit avoir des informations lui faisant craindre une avancée rapide du M23, cette fois vers la ville de Bukavu au sud Kivu. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi Stéphane Dujarric, c'est le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Après la prise de la capitale provinciale du Nord Kivu par le groupe rebelle appuyé par les forces rwandaises, les condamnations à l'international continuent de tomber. La Belgique a réclamé ce jeudi à l'Union européenne des sanctions envers Kigali. Et de son côté, le Royaume-Uni dit étudier la possibilité de réexaminer toute son aide au Rwanda. Un accident entièrement évitable qui a frappé un vol banal. C'est ce que répète l'administration Trump depuis cette collision entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire survenu dans le ciel de Washington mercredi soir. 67 personnes sont décédées. Il n'y a aucun survivant, a confirmé Donald Trump ce jeudi. Les enquêteurs de l'Agence américaine de la sécurité des transports avertissent qu'il est pour l'instant trop tôt pour déterminer les causes de l'accident. Ce que l'on sait pour le moment, c'est que cet hélicoptère effectué un vol d'entraînement à proximité de l'aéroport Ronald Reagan. L'avion, lui, était en provenance du Kansas et s'apprêtait à atterrir, Anne Verdaguet.
Il est 20h48 ce mercredi soir à Washington DC quand l'un des contrôleurs aériens interpelle le pilote de l'hélicoptère et lui demande s'il a bien vu l'avion de ligne dans sa trajectoire et s'il va bien passer derrière. Quelques secondes plus tard, c'est la collision. Les vidéos montrent un choc violent et une boule de feu. Près de 300 pompiers vont tenter toute la nuit de trouver des survivants dans le fleuve gelé. 28 corps sont retrouvés. John Donnelly, le chef des pompiers locaux.
Malgré tous ces efforts, nous sommes à un point où nous passons d'une opération de sauvetage à une opération de recherche. À ce stade, nous ne pensons pas qu'il y ait de survivants. Les autorités locales ainsi que le médecin légiste tentent de réunir les proches des victimes et nous ferons tout pour trouver l'ensemble des corps et les rendre aux familles.
Le président américain a ensuite pris la parole, mettant en cause les pilotes de l'hélicoptère.
Il y a un problème du côté des pilotes, car l'avion de ligne avait ses phares plein feu et l'hélicoptère a continué sa trajectoire. Les deux appareils n'auraient pas dû être à la même altitude. Donc pour moi, c'est une série de mauvaises décisions qui a conduit à la mort de ces personnes.
Donald Trump qui a aussi pointé du doigt ses prédécesseurs qui ont, selon lui, baissé les exigences en matière de contrôle aérien.
Explication d'Anne Verdaguet. Daniel Ortega, lui, renforce un peu plus son emprise sur la présidence du Nicaragua. Le Parlement vient d'annoncer avoir approuvé dans son intégralité une réforme constitutionnelle octroyant les pleins pouvoirs au dirigeant de 79 ans, ainsi qu'à son épouse et coprésidente du pays, Rosario Murillo. En Suède, le meurtre par balle d'un militant irakien connu pour avoir brûlé plusieurs exemplaires du Coran, Salwan Momika, a été tué mercredi soir dans la banlieue de Stockholm. Selon le Premier ministre suédois qui s'est exprimé en conférence de presse, les services de renseignement s'étaient très impliqués dans cette affaire, rappelant au passage le risque d'un lien avec des puissances étrangères. Otilia Ferré retrace cette soirée.
C'est peu après 23h hier soir que la police a été appelée dans un quartier au sud de Stockholm après que des coups de feu ont été tirés à l'intérieur d'un immeuble. Sur place, Salwan Momika est décédé. L'auteur des autodafés de Coran était en direct sur les réseaux sociaux au moment de la fusillade. Dans une vidéo diffusée par la presse suédoise, on peut apercevoir un policier apparaître dans le cadre du téléphone et arrêter le live TikTok. Une enquête préliminaire pour meurtre a été ouverte et la police a annoncé avoir arrêté 5 personnes dans la nuit avant de les placer en garde à vue. Salwan Momika et son comparse Salwan Najem avaient été renvoyé en procès pour incitation à la haine. Le verdict devait être rendu ce jeudi, il a donc été reporté. Momika était arrivé d'Irak en Suède en 2018 et avait ensuite obtenu un permis de séjour de 3 ans. Il s'était fait connaître du grand public à l'été 2023, lorsqu'à plusieurs reprises, et ce, en plein processus d'adhésion de la Suède à l'OTAN, il a brûlé des Corans en signe de protestation contre l'islam. Des actes qui avaient provoqué de vives réactions bien au-delà des frontières suédoises. Sa tête avait même été mise à prix, mais aucun mobile n'a pour l'heure été mis en avant dans la fusillade qui a coûté la vie à l'auteur des autodafés. Otilia Ferré, Stockholm, RFI.
Et puis, une immense décharge à ciel ouvert, mais aussi sous terre, négligée par l'Italie. L'État italien a ainsi été condamné ce jeudi par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas avoir agi contre le pullulement de dépôts toxiques dans la région de Naples. Une pollution due aux actions criminelles de la mafia, mais les autorités ont été mises en cause pour leur passivité, Pauline Glaise.
L'Italie a violé aux yeux des juges l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, article qui garantit le droit à la vie. Car dans une zone entre Naples et Caserte, dans le sud de la Botte, une recrudescence de cancer a été provoquée par des enfouissements illégaux de déchets par la mafia. Des enfouissements, mais pas seulement. Si cette zone et l'affaire sont surnommées « Terre des feux », ce n'est pas pour rien. La criminalité organisée y a brûlé à ciel ouvert des déchets industriels. Résultat, métaux lourds, dioxines et particules fines contaminent sol, air et eau. Alors certes, c'est la mafia qui est directement en cause, mais dès 1997, un repenti avait informé le Parlement de l'enfouissement de déchets dangereux à grande échelle depuis au moins 1988. Un décret-loi délimitant cette terre des feux n'a été adopté qu'en 2013, Depuis, des commissions d'enquête parlementaires ont confirmé la passivité, voire la complicité de l'administration. Aujourd'hui encore, des tas d'ordures s'empilent le long des routes et dans des champs. Les juges donnent 2 ans à l'Italie pour élaborer une stratégie exhaustive pour répondre à la situation.
RFI 23h.